Et notre invité ce matin dans le 8-30, Léo Valter, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes candidat pour la nouvelle Union populaire, écologique et sociale sur la seconde circonscription des Alpes-d'Haute-Provence pour les législatives. La campagne commence officiellement aujourd'hui. L'instance de la NUP va d'ailleurs se réunir ce lundi pour mettre en place une sorte de boîte à outils à disposition des candidats de l'Alliance de gauche à 14 jours du scrutin. Tout d'abord, vous êtes à nouveau candidat pour ces législatives. Vous êtes à nouveau face à Christophe Castaner. Qu'est-ce qui a changé depuis 2017 ?
Alors, il y a plusieurs choses qui ont changé. La première, c'est la situation politique au national et dans notre département, puisque ça fait 5 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir et qu'on a pu constater de visu ce que nous disions en 2017, à savoir que ne serait ni de gauche ni de gauche. La deuxième chose qui a changé, vous parlez de Christophe Castaner, c'est le parcours politique de Christophe Castaner, qui parle de lui-même. Ce n'est plus le Christophe Castaner de 2017. Il a depuis participé à un gouvernement dont on connaît et la ligne politique et les actions. Puis la troisième chose qui a changé, elle est de notre côté, puisque nous ne sommes plus la jeune force politique de 2017, mais un parti parfaitement organisé et en ordre de campagne.
Je reviens juste sur Christophe Castaner. C'est quoi aujourd'hui ? C'est un candidat de droite pour vous, dans ce que vous dites ?
Ah oui, tout à fait, mais on le disait déjà en 2017. Cela dit, si vous écoutez les interviews que nous avons données en 2017, on disait déjà que c'était un candidat de droite puisqu'il défendait un gouvernement, enfin il participait à un gouvernement qui défendait une politique de droite. La chose qui est nouvelle par rapport à 2017, c'est son parcours de ministre de l'Intérieur qui montre qu'au-delà d'être la figure des politiques libérales d'Emmanuel Macron, il est aussi la figure des politiques autoritaires d'Emmanuel Macron. On pose bien sûr au mouvement des Gilets jaunes.
Très souvent, on entend dans les analyses politiques, la France insoumise a fait un score très élevé, et notamment dans les Alpes-d'Haute-Provence. Forcément, ça a été ça pour les présidentielles, ce sera la même pour les législatives. Pourtant, on a posé cette question, alors qu'il n'a pas valeur de sondage, mais en tout cas, on a posé cette question sur alpe1.com. Législative, est-ce que vous votez pour le candidat ou est-ce que vous votez pour le parti ? Eh bien, 57% les internautes d'Alpe 1 ont répondu pour le candidat. Si bien que cette analyse de dire la France insoumise a performé dans les scores pour les présidentielles, elle performera aussi pour les législatives, ça tombe à l'eau.
Mais on sait bien effectivement que ce sont deux scrutins très différents et que faire des projections de la présidentielle sur les législatives serait une erreur. En 2017, il y avait eu nettement moins de votants au premier tour de la législative qu'au premier tour de la présidentielle. Et effectivement, notre électorat ne s'était pas déplacé, ou en tout cas s'était nettement moins déplacé qu'au premier tour de la présidentielle. Nous, le pari que nous faisons, et qui n'est pas qu'un pari, qui est aussi une stratégie et une volonté de l'emporter, c'est que cette année, les conditions sont différentes, qu'il y a un véritable espoir qui s'est levé avec cette notion de troisième tour qui a été installée dans le débat par Jean-Luc Mélenchon, et qu'il est possible de remobiliser notre électorat. Nous sommes mis en campagne, nous, dès le mois de septembre, dans le cadre de l'élection présidentielle, et nous n'avons jamais cessé. Donc, en fait, la campagne des législatives a commencé pour nous il y a 6 mois. Nos militants sont partout, sur les marchés, au porte-à-porte, dans tous les villages, dans toutes les villes de la circonscription. Et le message que nous faisons passer, c'est que ce n'est pas terminé et qu'il y a encore une possibilité de l'emporter au mois de juin. Alors, bien sûr, nous savons qu'il y a ce risque-là, mais nous sommes en train de démentir cette inquiétude.
Il y a deux risques aussi dans les urnes. Il y a aussi pour vous le risque Marine Le Pen, en tout cas Rassemblement National, puisque ça aussi, ça a été un score qui a été très prégnant pour les présidentielles. Le Rassemblement National est arrivé en tête dans les Alpes-d'Haute-Provence. Et puis, il y a aussi l'abstention. Je vais juste rappeler le taux d'abstention pour les législatives de 2017, plus de 54%. Voilà, deux risques auxquels la NUP devra faire face.
Tout à fait, c'est ce que je vous disais, notre campagne est construite en fonction de ces différents risques. Premièrement, en allant mobiliser notre électorat, c'est-à-dire que si les gens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, mais également pour Fabien Roussel, pour Anne Hidalgo, pour Yannick Jadot au premier tour de la présidentielle, se mobilisent au premier tour de la législative, nous pouvons l'emporter. Nous l'emporterons d'ailleurs, très clairement. Donc, nous allons d'abord mobiliser notre électorat. Nous pensons également qu'en mobilisant cet électorat, cela peut déclencher une dynamique qui peut remobiliser les abstentionnistes, y compris ceux qui ont pu s'abstenir aux élections présidentielles et se dire depuis qu'ils ont raté quelque chose au vu du score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Et puis après, pour ce qui est du Front National, vous l'avez dit tout à l'heure, l'élection législative n'est pas l'élection présidentielle. On l'a vu en 2017, le score du Front National n'est pas du tout le même, enfin du Rassemblement National n'est pas du tout le même aux législatives qu'aux présidentielles dans notre département. Et puis nous avons aujourd'hui une extrême droite qui s'avance divisée, hein, puisqu'il y a dans ma circonscription, comme dans l'autre d'ailleurs, trois candidatures d'extrême droite qui s'affrontent. Voilà, donc nous, notre but, ce n'est pas de faire de la stratégie politique à la petite semaine et d'essayer de compter les voix, c'est d'aller convaincre et de montrer que nous avons le seul programme capable de répondre aux urgences du moment.
Alors Léo Valter, vous le disiez, hein, il va falloir mobiliser notre électorat, que ce soit les communistes, les écologistes, les socialistes ou les insoumis. Mobiliser ou convaincre votre électorat, je m'explique, est-ce que la NUPES va survivre aux législatives? On a fait en l'espace de 2 semaines l'alliance qui n'a jamais été réussie en plusieurs années. Sauf que sur les 650 propositions, 33 sont en nuance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord entre les partis, et des propositions pas des moindres, hein. Sortie de l'OTAN par exemple, la France Insoumise et le Parti Communiste pour, contre Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste, commission d'enquête sur les violences policières, le PS est contre, droit de vote à 16 ans, le Parti Communiste est contre, et la sortie du nucléaire, le Parti Communiste est contre. Comment on va arbitrer cela? Comment on va arbitrer des propositions aussi importantes qui sont en nuance?
Eh bien, on va arbitrer des propositions aussi importantes en revenant aux racines de la République française, c'est-à-dire en utilisant le Parlement pour ce à quoi il devrait servir normalement et ce à quoi il ne sert plus depuis l'inversion du calendrier électoral et en particulier depuis le quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire à discuter, construire et fabriquer les lois. Donc en fait, effectivement, vous avez raison de le noter, nous avons fait cette union de la gauche en un temps record, et c'est, je pense, une prouesse à saluer, parce que ça signifie que les forces de gauche de ce pays se sont rendues compte de l'urgence du moment et de la nécessité qu'il y avait à s'unir pour l'emporter et pour proposer au pays une autre politique que celle qui nous est imposée depuis de trop nombreuses années. Et puis, pour toutes ces questions qui sont en nuance, avec une majorité de la NUPES élue, il y aura un Parlement responsable, politiquement capable de prendre des décisions et qui surtout saura porter ces débats-là de manière publique, de manière transparente, et pourra construire la loi, fabriquer le monde de demain de manière démocratique et publique. Donc c'est le pari que nous faisons, c'est que oui, la NUPES survivra à ces élections législatives et sera capable, malgré ses divergences sur certains points, et peut-être même grâce à ses divergences sur certains points, de gouverner le pays de manière responsable et politiquement adulte, j'ai envie de dire.
Parlons des sujets qui intéressent et interpellent surtout votre circonscription, la seconde, la santé, et notamment. C'est l'un des sujets les plus préoccupants en ce moment, notamment parce que déjà l'accessibilité à des médecins est en dessous de la moyenne nationale, selon les chiffres de l'INSEE, mais aussi par rapport aux urgences de Manosque. De nuits de fermeture, on est passé à des journées de fermeture. Depuis 2021, le numerus clausus est supprimé en France, mais on le sait, ça va mettre du temps avant de produire ses effets. Alors, quelles propositions vous faites ?
Alors, nous d'abord, nous avons été aux côtés des syndicats hospitaliers depuis le début, hein, pour dénoncer la situation d'abord aux urgences de Sisteron et maintenant aux urgences de Manosque. On fait mine de découvrir aujourd'hui qu'il y a un souci de couverture santé dans ce pays. On fait mine aussi d'être étonné quand on supprime un certain nombre de lits, quand on supprime les postes de fonctionnaires, que ça ne fonctionne plus au bout d'un moment. Eh bien, c'est effectivement le problème. Quand on fait reculer les services publics, eh bien, les services publics dysfonctionnent. C'est une conséquence immédiate. Nous, nos propositions, elles sont très claires, hein. Elles sont de relancer un grand grand service public de la santé, avec la proposition de recruter des médecins par le biais de concours publics, en leur demandant, en échange de la prise en charge de leur formation, un temps de service au service du public directement là où c'est nécessaire, donc en particulier dans les déserts médicaux. Nous dénonçons depuis le début les fermetures de lits et donc nous battrons pour des réouvertures de lits partout où c'est nécessaire. Nous sommes aux côtés du collectif Réad Manosque depuis toujours pour demander l'installation d'un service de réanimation à Manosque. Donc nos propositions sont très claires de ce point de vue-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire mine de vouloir redonner à l'hôpital public et à la santé publique son lustre d'antan sans y mettre les moyens, et nous y mettrons les moyens financiers et humains.
En 2019, plus de 17% de la population de la seconde circonscription des Alpes-de-Haute-Provence avait un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté, et en particulier les jeunes de moins de 30 ans. La part, elle est élevée, parce qu'en France, elle est à 14%. Ça fait 3 points de plus. On fait quoi face à ce niveau de pauvreté? On fait quoi pour et redonner du pouvoir d'achat et redonner de la capacité à vivre mieux?
Alors, la première chose qu'on fait pour redonner du pouvoir d'achat, c'est d'augmenter les salaires, de dégeler le point d'indice des fonctionnaires, d'amener le SMIC à 1500 euros. La deuxième chose, vous parlez de la jeunesse, c'est de donner les moyens à la jeunesse de mener ses études ou de mener son début de vie adulte dans des conditions dignes. C'est pourquoi nous proposons la mise en place d'une allocation d'autonomie pour tous les jeunes qui sont indépendants de leurs parents, une allocation d'autonomie qui soit justement supérieure au seuil de pauvreté. Et puis la troisième chose, c'est que nous sommes dans un département où cette pauvreté est importante, également par manque d'accès aux services publics, par manque d'accès aux transports, par manque de possibilité de se déplacer simplement. Et donc une politique publique de transport ambitieuse, une politique de remise en place des services publics partout où ils peuvent être nécessaires, peut-être une réponse également afin d'accompagner les jeunes, mais aussi les autres, sur le chemin de l'emploi et sur le chemin d'une vie plus digne.
Je reviens sur cette proposition de Jean-Luc Mélenchon, passer le SMIC à 1400 puis désormais 1500 euros. Certains disent aujourd'hui, ah oui, mais attention, le risque, c'est que finalement, on va avoir une smicardisation croissante de la population française, c'est-à-dire que c'est tellement élevé que tout le monde sera smicard.
Alors, c'est étrange de dire que c'est tellement élevé. Je ne sais pas combien de personnes vivant avec 1500 euros par mois peuvent dire « j'ai un salaire élevé et je vis très, très bien dans le monde dans lequel nous sommes, dans le département dans lequel nous sommes, rien que pour payer l'essence et puis les produits de première nécessité. 1500 euros, ça me paraît un minimum à partir du moment où on a une vie de famille à mener. Maintenant, il est évident que le SMIC n'est qu'un levier d'entraînement. Nous proposons une conférence sur les salaires, dans toutes les branches où ça n'a pas été mené ces dernières années, où il est nécessaire de le faire. On sait que mécaniquement, lorsque le SMIC augmente, eh bien, les autres salaires augmentent également.
Comment on fait pour que les patrons, les petits patrons, puissent suivre ce régime du SMIC à 1500 euros?
Alors, la difficulté d'un programme aussi systémique, aussi complet que le nôtre, c'est que quand on tire un fil, il faut aller tirer tous les autres. Il se trouve que dans notre programme, il y a des propositions de réforme en profondeur de la fiscalité, et en particulier de la fiscalité des entreprises, pour que les petites entreprises n'aient plus à payer autant d'impôts que les grosses entreprises, qui, elles, en paient dramatiquement peu. Donc, il y a bien entendu tout un volet d'entraînement de l'économie par le biais d'une fiscalité plus juste et aussi d'un accompagnement justement des petites entreprises. Donc l'idée que on ne pourrait pas payer un SMIC à 1500 euros parce que ça mettrait en péril les entreprises est une erreur qui est toujours l'argument avancé pour refuser les avancées sociales. Je pense qu'il faut faire le pari de l'augmentation massive des salaires, que cette augmentation massive des salaires permettra aussi une augmentation du pouvoir d'achat et donc une augmentation de la consommation, donc de remplir les carnets de commandes des entreprises. Et je pense qu'un patron qui a un carnet de commandes plein et une fiscalité adaptée à sa situation peut tout à fait faire face à des augmentations de salaire du type de celles que nous proposons.
Dernière question. Trois productions dominent le secteur agricole dans les Alpes-de-Haute-Provence. Il y a les fruits, il y a l'élevage ovin, il y a les plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Élevage ovin et la filière PPAM, deux problématiques aujourd'hui, les attaques de loups et aussi l'Europe qui pourrait classifier la lavande et le lavandin dans les substances nocives ou toxiques. Quelle réponse vous apportez-vous en tant que candidat aujourd'hui ?
Alors, la première chose par rapport à l'Europe, nous avons un programme de rupture qui propose clairement de désobéir aux injonctions européennes dès lors qu'elles nous empêchent d'appliquer notre programme. Donc, quand les injonctions sont stupides, et je pense que celle dont vous parlez est particulièrement stupide, eh bien, nous y désobéirons. La deuxième question est beaucoup plus complexe, hein, je ne peux pas avoir une réponse en quelques secondes à ce problème, mais il me semble que l'accompagnement des éleveurs doit être très clair, et la protection du loup en tant qu'espèce protégée également. Donc il faut travailler sur ces deux axes-là. Le loup doit être protégé, mais les éleveurs doivent pouvoir continuer à travailler. Et pour ça, il faut les accompagner. Alors, j'ai pas de réponse immédiate, si ce n'est que il faut protéger les élevages, leur apprendre à vivre à côté du loup, comme c'est le cas dans d'autres pays européens comme l'Italie, et puis leur permettre, encore une fois, de protéger leurs élevages. Et c'est pas seulement une question d'indemnisation financière. Je pense qu'il faut les accompagner au quotidien, parce qu'ils font un travail qui est important et qui est nécessaire à la transition écologique à laquelle nous appelons.
Merci beaucoup Léo Walter d'avoir été avec nous ce matin, candidat de la NUPES sur la seconde circonscription des Alpes-de-Haute-Provence pour les législatives. Merci.